Monsieur Windisch, pour cet éclairage UV, vous avez remarqué qu'il y avait deux Suisses, deux tendances en Suisse, à peu près dans tous les partis, dont l'une serait finalement l'assimilation de la Suisse dans cette masse informe dirigée par Bruxelles qu'est l'Union européenne, et l'autre, celle des gens qui sont attachés aux valeurs patriotiques de la Suisse.
Alors, en effet, je pense qu'en arrière-fond, il y a maintenant, dans tout ce qui va se passer en Suisse, l'horizon des élections fédérales de 2015. Et on voit ces jours toute une série d'interventions publiques, d'appels, de manifestes, surtout du côté des mouvements, des groupements, des personnes, des personnalités qui... Et je dois dire que c'est quand même surprenant qu'ils nous disent qu'ils ne veulent pas d'une Suisse qui s'isole, d'une Suisse du repli, n'est-ce pas? C'est tout juste qu'on ne dit pas d'une Suisse du réduit national, n'est-ce pas? C'est comme si la Suisse était en train de se refermer, de s'enfermer, alors que, contrairement à ce que disent ces personnes qui ont une vision internationaliste, mondialiste et évidemment pro-européenne, ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'en grande partie, ils sont un petit peu à côté de la réalité, pour ne pas dire hors sol, parce qu'ils parlent très peu des problèmes quotidiens et concrets des Suisses qui souffrent, ça existe, des Suisses aussi qui sont attachés au pays, on passe comme chat sur braise sur ces réalités fortes, lourdes, puissantes qui font le pays. Alors bien sûr, en plus, ces personnes qui ont cette image d'une Suisse qui devrait s'ouvrir, qui devrait en gros se précipiter dans les bras de l'Union européenne, c'est bien sûr une image, mais c'est quand même un peu ça. On dit à la fois... Bien sûr que la Suisse est un modèle unique, mais en même temps, on dit que ce n'est pas une raison pour ne pas remettre en cause certaines choses. Donc il y a un discours un petit peu hypocrite, mais le fond est clair. On critique un pays qui va fondamentalement très bien, et c'est comme si on ne pouvait pas, et je crois que c'est là un problème central, si on ne pouvait pas à la fois être attaché à son pays, clairement patriote et très ouvert. Et c'est ce qu'est la Suisse, contrairement à ce qu'on dit tout le temps, n'est-ce pas, que la Suisse sera en train de se replier, ce qui est totalement faux, et aussi de croire qu'on ne peut pas avancer avec les traits les plus fondamentaux de la Suisse tels qu'ils existent, et une ouverture, mais selon ce que permet notre système politique. On a eu les accords bilatéraux qui existent toujours, ainsi de suite. Donc je pense que ce que ces gens internationalistes, mondialistes, inconditionnellement pro-européens ne se rendent pas compte, c'est qu'ils vont créer des effets pervers, des effets contraires. Le citoyen suisse qui est attaché à son pays, tout en étant ouvert, n'accepte pas d'être traité ainsi. Et ça, c'est un deuxième point. Il y a une très grande différence de la manière dont les Suisses, disons classiques, traditionnels, attachés à leur pays, parlent des autres, n'est-ce pas? On comprend parfaitement qu'il y ait plusieurs visions de la Suisse. Tandis que les mondialistes, internationalistes, pro-européens ont très souvent un mépris, clairement avoué parfois. On regarde de manière condescendante, on critique, ça veut dire en fait une grande partie de la population suisse, de manière tout à fait inadéquate. Donc je pense que là aussi, les fronts vont se durcir. Alors maintenant, il y a aussi une chose, c'est que le fossé, on ne veut pas voir ça, le fossé entre cette Suisse internationaliste, n'est-ce pas, qui... sans vraiment l'accepter, en fait, rejette certaines caractéristiques structurelles de la Suisse, est de plus en plus coupée de cette base de la population. Je prendrai un exemple. Si j'ai bonne mémoire, quand le Parlement s'est prononcé sur l'initiative Ecopop, Eh bien, voyez-vous, il y avait, je crois, un seul oui à cette initiative au Conseil des États et trois oui au Conseil national. On devine déjà que lors de la votation populaire, évidemment que les proportions seront totalement différentes. Donc il y a tout un ensemble de signes qui montrent ce décalage très important où les pro-européens foncent aveuglément et inconditionnellement dans une direction qui est tout à fait opposée à celle que souhaite la majorité de la population. Maintenant, il y a quand même une chose intéressante qu'il faut souligner. Vous avez de plus en plus de personnes qui sont vraiment admiratives de la Suisse et notamment de la démocratie directe, cette volonté qui monte partout d'une participation plus marquée des populations par référendum. Vous voyez, tout récemment encore, l'ancien ministre des Affaires étrangères d'Allemagne, Joschka Fischer, qui n'est pas un homme de droite, ne tarit pas d'éloges de la Suisse, dit que l'Union européenne devrait prendre modèle sur une Suisse plurilingue, pluriculturelle, participative. C'est quand même extraordinaire que des personnalités européennes de premier plan sont admiratives de la Suisse et que des Suisses passent leur temps à critiquer des éléments structurels fondamentaux. Tenez-vous bien, même les médias jouent évidemment aussi un rôle. Ils sont très fortement dans ce courant pro-européen, critiquant la Suisse rance, voyez tous ces qualificatifs négatifs. Vous avez même le directeur général de la radio-télévision suisse, Roger Devecq, qui faisait partie du club helvétique, et ce club helvétique disait: mobilisons-nous pour sauver la Suisse. Imaginez un instant, sauver la Suisse alors qu'elle va bien. Et il était aussi dit dans ses prises de position du club helvétique, il est inadmissible de sacraliser les droits populaires. On voit qu'il y a là aussi cette collusion, cette sensibilité collective entre une élite politique, que je dirais sans hésitation hors sol, et les médias qui appuient fortement dans ce sens, bien sûr de manière indirecte, mais quand même on le voit très nettement. Donc pour moi, il y a là un véritable danger à vouloir constamment limiter la possibilité d'expression, le fait de ne pas tenir compte de la volonté populaire. Le meilleur exemple est évidemment celui des droits populaires, le fait qu'on veut limiter les droits populaires, pouvoir ne pas donner l'autorisation, l'occasion au peuple de se prononcer sur certaines initiatives, ça me semble être d'une gravité certaine. Et je pense qu'il faut absolument essayer de montrer par diverses images cette contradiction fondamentale entre une admiration générale inconditionnelle de la Suisse même par les pays étrangers et des personnalités marquantes, et cette autocritique, on en revient presque à la vieille attitude autoflagellante, c'est pas où il fallait être critique envers son pays et où on accepte toutes les critiques d'institutions qui sont nullement représentatives. Si on prend l'exemple du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui disait que la Suisse devait faire mieux en matière de lutte contre la xénophobie, ainsi de suite. Donc on voit qu'il faut qu'il y ait une communication politique intense et massive pour que ces deux images entrent en collusion, mais surtout qu'on redonne la parole au peuple et qu'on se rend compte que ce peuple n'est pas un peuple conservateur réactionnaire. C'est lui qui a créé la Suisse actuelle avec sa richesse, avec sa situation particulièrement favorable. Et je pense que pour moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est les effets contraires, les crispations que vont créer ces visions hors sol, culpabilisantes pour le peuple suisse, mais on sait bien que le peuple suisse ne va pas se laisser culpabiliser sans autre. Les élections fédérales de 2015, j'espère qu'on aura des débats certains. Sinon, il y aura un silence du peuple et des avis diamétralement opposés de nouveau dans les urnes, et cela ne peut pas continuer ainsi.
Si on regarde la France aujourd'hui, on voit qu'en plus du fait qu'ils n'aient pas la démocratie directe, ils sont prisonniers de leur souveraineté déléguée à Bruxelles. Comme aujourd'hui, tout est très individualisé, ces deux éléments, la souveraineté et la démocratie participative, permettent d'assurer un dernier rempart de cohésion dans un pays, sans quoi ils se verraient broyés par cette tendance à l'individu seul, sans avenir ni passé, qu'on observe en poussant à l'extrême l'assimilationnisme européiste.
Oui, alors voyez, vous citez un exemple qui devient lui aussi préoccupant, c'est celui de la France. Si je puis faire allusion à un petit phénomène tout à fait récent d'un journaliste et écrivain, Éric Zemmour, n'est-ce pas, qui défend une image tout à fait classique, traditionnelle, admirative de l'histoire de son pays, qui est, comme il dit, fanatiquement français, il faut oser le dire, alors que vous avez à l'opposé, effectivement, le résultat d'une politique de l'Union européenne qui est pour beaucoup dans le marasme économique de toute une série de pays. Eh bien, lorsque vous tenez un discours positif sur un pays, quel est le hochet classique qu'on vous sort? C'est que il est d'extrême droite, il va favoriser le Front national. Voyez, on n'arrive pas à vraiment débattre des sujets. On stigmatise, on diabolise ceux qui en réalité posent les vrais problèmes. Et vous savez, l'ironie de l'histoire, c'est quand même la radio suisse romande qui, voyant ce phénomène, Zemmour qui tire son livre, ah, je ne sais pas combien ça sera, 200 000 exemplaires, eh bien, que dit-on? On dit, ben voilà un écrivain qui a de la sympathie pour l'extrême droite, et on peut imaginer que ce succès littéraire va annoncer un succès politique, entendu le Front national. Autrement dit, si on réfléchit librement, ouvertement contre la bien-pensance et ces groupements politiques hors sol, on est tout de suite d'extrême droite, même révisionniste, tout y passe. Eh bien, voyez que là aussi, je pense on devrait d'urgence essayer d'analyser les réalités plutôt que de les juger et de diaboliser ceux qui ne sont pas dans cette éternelle bien-pensance et autres politiquement corrects.
Merci, monsieur Windisch.